Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Alors je crois que, bon, j'ai le redoutable privilège d'être le dernier orateur. J'espère que vous tiendrez le choc. Et le redoutable privilège aussi d'avoir un petit peu à ramener tout ce qui a été dit en cette journée avec les différents prédicateurs, les différentes prédications. Le message de notre frère Philippe sur la mondanité, les deux autres excellents messages sur le courant néo-évangélique, notre frère qui nous a parlé du féminisme, et moi je voudrais attirer votre attention donc sur ce qui va, je crois, à mon avis, résoudre toutes choses. La parole de Dieu nous en parle. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, c'est quelque chose dont on a impérativement besoin au sein de nos églises, dans notre propre cœur, cela, ça commence dans notre cœur. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Certains le connaissent bien. Mon peuple, ceci est invoqué, mon nom, s'humilie, crie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. J'observe maintenant la scène évangélique de part et d'autre de l'océan Atlantique depuis presque 25 ans. Le courant bibliciste, là, le courant fondamentaliste auquel je m'identifie sans réserve, a besoin d'un profond réveil. On a parlé des néo-évangéliques, et on doit parler des néo-évangéliques. Notez que je dis la mouvance fondamentaliste. Les chrétiens qui se réclament de la Bible, les biblicistes doivent retrouver leur repère. Je ne parle pas de la dérive de néo-évangélique, quand on a su bien montrer les dépassements. Certes, je crois que les néo-évangéliques ont besoin de retrouver leur marque publique en ne se laissant plus abuser par les chants de sirènes économistes, pragmatistes, humanistes, scientiste, existentialiste, relativiste, auquel il se laisse soumettre. Mais là n'est pas mon propos. Si nous ne voulons pas que nos jeunes en formation, nos membres d'église, ceux qui sont engagés, ceux que nous aimerions voir se développer, ne jettent le bébé fondamentaliste là, avec l'eau du bain, il faut qu'un réveil spirituel se passe dans notre cœur d'abord. Et là, je m'adresse autant à mes frères qui sont dans le ministère, les missionnaires, les pasteurs, qu'aux membres d'églises présents. Je crois que la meilleure manière de manifester l'amour pour le Seigneur, c'est tout simplement d'obéir à ce commandement. Faut faire toute sorte de soucis, l'amour dans la vérité dans l'amour. La meilleure manière de vraiment montrer notre amour pour le Seigneur, c'est de faire ce qu'il nous a dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. On ne peut pas dire j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, et faire le tri dans sa parole. J'aime le Seigneur, et puis dédaigner une grande partie de ses commandements, ou les suivre de manière intermittente. Ce réveil spirituel s'impose à nous. Car la vitalité spirituelle semble faire défaut, freinée qu'elle est à notre niveau, au niveau de l'Église, par une attitude parfois, alors il y a diverses raisons, il y a une attitude où la polémique étouffe l'apologétique. On sait mieux critiquer que défendre la vérité, critiquer ceux qui sont loin de la vérité. Entravée qu'elle est parfois par la dureté de ton et peut-être de cœur. Et ce qui serait en contradiction avec l'enseignement biblique et l'exemple laissé par le Seigneur. Et je vous rappelle que toute notre démarche, nous y efforçons, que Dieu nous y aide dans sa grâce, toute notre démarche est de dire la vérité dans l'amour. Et pas sans amour. La vitalité spirituelle ne subsiste pas non plus dans les églises, dans notre cœur, lorsque le vent du formalisme, les rites, l'immobilisme, le traditionnalisme, le légalisme, le pharisaïsme, le simplisme, hein, dire des choses banales à longueur de message, à longueur d'année, la superficialité, hein, exégétique et doctrinale, quand on se contente de rénover la façade des chrétiens, mais pas l'intérieur qui est délabré, quand on s'intéresse davantage au péché apparent, au péché latent du cœur, l'isolationnisme culturel, le pragmatisme, qu'il soit financier, statistique ou autre, ceci et bien d'autres obstacles ont déséquilibré certains fondamentalistes. Heureusement, aucun n'est sans remède. Heureusement que la parole de Dieu est là, hein, pour laver tout ça, pour nettoyer tout ça et faire place à fin de point à une vie chrétienne dynamique et conforme à la volonté de Dieu. Heureusement, la thérapeutique biblique rendra sa vitalité aux organismes vivants que constituent nos églises locales avant d'être des organisations. Ce sont des organismes vivants. C'est un corps qui fonctionne ensemble. Alors, vous avez sans doute relevé que chacun des travers que je viens d'évoquer, avec toutes sortes de ismes, hein, sans avoir été exhaustif dans cette liste, loin s'en faut, fait parfois bon ménage, ils font parfois bon ménage avec l'orthodoxie. Sur le papier, on peut avoir une bonne confession de foi et être légaliste. On peut avoir une bonne confession de foi et puis être formaliste. On peut avoir une très très bonne confession de foi et agir comme des pharisiens. C'est pas mutuellement exclusif ce que je dis là. Parfois, ces choses coexistent. Hein, il faut les purger, ça. On ne peut pas laisser ces ismes, hein, ce effet-là sur notre foi chrétienne et la dénaturer, parce que ça dénature le christianisme. Et c'est ce que voient les gens, parfois. Ils voient notre légalisme, notre pharisaïsme, notre formalisme, et le manque de vie. Ils voient les formes et pas la vie. Hein, pas la vie. Pas la joie, pas la paix, pas tout ce que le Seigneur nous a donné. Mais encore une fois, de grâce, ne jetons pas le bébé fondamentaliste avec l'eau du bain, comme certains le font. Hop. Je vais changer, je vais faire autre chose. Il s'agit pour nous de revitaliser le mouvement en y suscitant un réveil spirituel authentique, et ce réveil passe par chacun d'entre nous. Par moi, par vous. Il faut que ça passe quelque part, il faut que ça démarre quelque part. Alors, qu'est-ce que c'est un réveil? Bon, il faut en général, quand on veut définir un mot, aller bien au-delà de la définition du dictionnaire pour comprendre ce terme, surtout lorsqu'il décrit une expérience humaine. Lorsqu'il décrit une expérience humaine, il faut en général voir des illustrations de la vie de chaque jour qui expliquent le mieux ce qu'est une expérience humaine. Et c'est vrai pour le réveil spirituel. On parle toujours de réveil, réveil, réveil. Je crains que certains pensent qu'un réveil, c'est ce qui nous aide à nous lever le matin. Par exemple, prenons un exemple, le mot douleur. Le mot douleur peut avoir des significations complètement différentes, une connotation complètement différente pour une personne en bonne santé, le mot douleur, et une personne qui est passée par la fournaise de l'agonie physique dans un patient décancéreux. Je garantis que le mot douleur a une autre signification. Et quand on parle de réveil spirituel, qu'est-ce qu'on entend par réveil spirituel? J'ai entendu beaucoup de messages sur des réveils spirituels, en anglais, en français. Et quelquefois, outre-Atlantique, j'ai eu l'impression que des gens voulaient un réveil, davantage pour sauver l'Amérique, davantage pour sauver l'économie, que pour glorifier Dieu. Alors, certains voient un réveil spirituel en termes de révocation des décrets liés à l'avortement. Ça y est, c'est un réveil maintenant. Ou des décrets par rapport au divorce. D'autres le voient réveil dans une perspective ecclésiale. Les églises se remplissent le dimanche, mais se remplissent de quoi? Il y a d'autres perspectives qui pourraient être relevées, une espèce d'élan moral, une unité œcuménique de la chrétienté. Si donc le mot réveil spirituel évoque autant de conceptions différentes, parfois presque contradictoires, il est d'autant plus important pour nous de focaliser notre attention sur le sens que Dieu donne au mot réveil. Qu'est-ce que c'est un réveil spirituel selon la Bible? Et là, nul doute possible, hein, le texte, le passage le biblique le plus clair et le plus puissant que j'ai pu voir dans les Écritures se trouve ici, hein, dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. C'est intéressant de voir d'ailleurs le caractère central de ce passage. Ce passage se situe dans le deuxième livre des Chroniques, et il fournit en fait la trame du message de tout le livre des Chroniques, et présente quasiment l'agenda de la vie de 5 rois clés de Juda. Roboam, Asa, Josaphat, Ézéchias et Josias. Je vais y venir à ces 5 rois dans un instant. Et chacune des conditions pour que s'opère un réveil spirituel se présente séparément dans la vie de ces rois comme une solution incontournable à leurs problèmes précis. Bon, alors, faute de temps, hein, je peux pas vous parler des 5 rois sur 24 chapitres, hein, ça c'est pas possible. Je vais déjà avoir du mal à contenir mon message, là, dans les temps qui me sont impartis. Mais, regardons les conditions à suivre pour qu'il y ait réveil, là. La première, c'est humiliez-vous. Humiliez-vous. C'est exactement ce que Dieu dit, hein, et on le voit avec le roi Roboam. Regardez dans 2 Chroniques, chapitre 11, c'est juste un tout petit peu plus loin là, 2 Chroniques, chapitre 11, et où est-ce que je suis là? J'ai perdu mon passage. Excusez-moi, j'ai perdu le verset. Mais dans le passage, c'est exactement ce que Roboam doit faire. Il doit s'humilier, hein, devant le Seigneur. Il doit s'humilier. Alors, le deuxième roi, c'est Asa, et lui, on voit qu'il doit chercher la face de Dieu. Regardez dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 15 et verset 4. Pardon? 12-12. Merci, frère. Sans doute. Voilà, 12-12. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Effectivement, c'est le verset 6 dans chapitre 12, verset 6. J'avais dit chapitre 11. Mais les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent l'Éternel est juste. Ça, c'est le verset que j'ai recherché tout à l'heure. Merci. Donc, avec Asa, nous voyons qu'il s'agit de chercher la face de l'Éternel. Regardez dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 15, verset 4. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Cherché. Pour Josaphat, c'est prier. Prier. Regardez dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, et verset 3. Verset 3. Donc, qui est suivi d'une longue prière. Hein. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne, hein, pour tout Israël, pour tout Juda, pardon. Et il prie dans verset 6, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Avec Ézéchias, il s'agit de se détourner de leur mauvaise voie. Alors, regardez précisément le deuxième livre des Chroniques, chapitre 30. Chapitre 30, verset 8 à 9. Verset 8 et 9. Alors, ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères, donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez, hein, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils se trouveront en miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Et avec Josias, le cycle est complet. Donc Josias, c'est encore une fois, humiliez-vous, dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 34, et le verset 27, je crois. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu, en entendant ses paroles, contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. On relève donc ici le caractère fondamental de l'humilité, hein, puisqu'elle est mentionnée au départ et à la fin de ce cycle. Au sens le plus strict du terme, un réveil spirituel est la restauration de quelque chose à sa vraie nature et à ses vrais buts, à ses vrais objectifs. Le christianisme évangélique biblique a besoin d'être réveillé. Il doit retrouver non seulement la dynamique de la vie hein, en Dieu, mais s'engager maintenant sérieusement dans ses missions, dans ses véritables missions pour la seule gloire de Dieu. Et je vous prie de croire que les véritables missions, selon Dieu, nous les voyons clairement dans les Écritures. Il s'agit d'évangéliser, il s'agit d'édifier, pour que les âmes aient une relation personnelle, réelle, intime avec le Seigneur. Et donc, au sens le plus strict du terme, un réveil spirituel, c'est la restauration de quelque chose à sa vraie nature et à ses vrais buts. Le texte là, de Deux Chroniques, chapitre 7, verset 14, qu'elle comporte les quatre ingrédients essentiels révélateurs d'un véritable réveil spirituel. Et encore une fois, plus que toute autre chose, là, nous avons besoin d'un réveil spirituel qui commence dans notre cœur, dans notre église, dans notre famille. Nous avons besoin de ce réveil spirituel. Il faut que ça démarre avec nous. N'attendons pas qu'il se passe ailleurs. Notez d'abord les constituants d'un réveil biblique. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, constatait avec moi que le réveil n'est pas pour les convertis, ils vont bénéficier, c'est vrai. Ça j'en suis convaincu. Si nous sommes ranimés dans notre foi, je suis sûr que cela va avoir des conséquences sur les inconvertis. Mais a priori, ici, le réveil concerne ceux qui appartiennent au Seigneur, mon peuple, ceux sur qui est invoqué mon nom. Le nom de Dieu s'attache déjà à eux. Ceux que Dieu appelle ainsi lui appartiennent et sont au bénéfice de sa protection, son autorité. Et là se pose la question, est-ce que dans la désobéissance, est-ce que dans l'insoumission, les hommes ont le droit de se réclamer de son nom. Il y a quelque temps de cela, quelqu'un me demandait est-ce qu'Israël est toujours le peuple de Dieu. J'ai dit, écoutez, il y a des précédents dans la Bible, hein. Les précédents dans la Bible, c'est que quand Israël obéissait, Dieu disait, tu es mon peuple. Quand Israël désobéissait, Lo-ami, tu n'es plus mon peuple. Observez la scène. Est-ce qu'ils sont le peuple de Dieu? Vous avez votre propre réponse, là, sans que je vous en donne une. Et ceci, abstraction faite, hein, du fait que Dieu a encore un programme pour la nation d'Israël à venir. Ça, on ne revient pas là-dessus. Mais, est-ce que nous sommes peuple de Dieu si nous vivons dans la désobéissance, dans l'insoumission? Il y a beaucoup de gens qui se réclament de Dieu. C'est sur la distinction entre christianisme et chrétienté. Pourquoi est-ce qu'on fait la différence entre christianisme et chrétienté? On dit christianisme, ça c'est les véritables chrétiens nés de nouveau. La chrétienté, c'est tous ceux qui se réclament d'une manière ou d'une autre du nom de Christ. Et nous savons fort bien, hein, parce que la Bible nous l'a montré, que un jour, certains se présenteront devant le Seigneur et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je ne vous connais pas. Donc, est-ce que tous ceux, hein, tous ceux qui se réclament de son nom lui appartiennent? Mais qui n'est pas encore une brebis du Seigneur n'a guère besoin d'être restauré, puisque le réveil, par définition, implique le rétablissement d'une pleine mesure de vie. Or, ceux qui ne sont pas encore en Christ, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, n'ont aucune vie spirituelle. Disons, ils peuvent avoir une vie religieuse. Ils peuvent même avoir une vie pratiquement morale. Hein, mais ils n'ont pas besoin de restauration. Ils ont besoin de régénération. Régénération. Alors, il ne fait aucun doute que le peuple de Dieu, en cette fin de XXe siècle, a désespérément besoin d'une revitalisation. Surtout celui qui vit dans le monde occidental. Parce qu'on arrive quand même à faire parfois un distinguo là, entre les chrétiens qui vivent dans d'autres pays et ceux qui vivent en Europe et parfois aux États-Unis. Combien de chrétiens sont en effet aujourd'hui totalement adonnés à la recherche du confort, des commodités, des comptes en banque bien remplis. Même parmi le peuple de Dieu, hein, ceux qui connaissent l'Évangile, ceux qui connaissent la Bible, quelle obnubilation quasi-religieuse pour la popularité, hein, je veux qu'on m'apprécie, hein, le prestige, le pouvoir, la puissance, même à un niveau réduit. Ah, moi, je veux être le chef dans la presse, je veux être le chef dans le peuple. Ah, la puissance, le pouvoir. Encrouté, le traditionnalisme parfois, infecté par l'hédonisme, par l'égocentrisme, ça c'est sûr. Bon, ces travers ne sont pas l'apanage exclusif de l'homme moderne inconverti, mais de l'homme moderne chrétien charnel. Combien, en effet, le chrétien ressemble... Je sais pas qui est-ce qui me parlait du fondateur de McDonald's, c'est quoi? Qui est-ce qui m'a parlé du fondateur de McDonald's il n'y a pas longtemps, là? Je me souviens plus de son nom, Croc ou je sais pas quoi, là, il y a un nom bizarre. Mais enfin, le fondateur de McDonald's, celui qui a vendu je sais pas combien de milliards de sandwichs, là, hein, de hamburgers, là. Un jour, on l'a interrogé et on lui a demandé... Monsieur, vous croyez en quoi? Et il a dit, Dieu, ma famille, et les hamburgers de McDonald's. Mais tout le monde serait satisfait avec cet ordre-là, n'est-ce pas? Dieu, ma famille, et les hamburgers de McDonald's. Mais, il a ajouté avec une facétie voulue, là, ô combien révélatrice de son problème et du symptôme de beaucoup de chrétiens. Quand je viens au bureau, alors cet ordre est inversé. Mais est-ce que ce n'est pas ce que font beaucoup de chrétiens dans nos églises? Est-ce que ce n'est pas ce que font beaucoup de chrétiens dans nos églises? Alors moi je dis oui, c'est une triste réalité chez beaucoup de chrétiens. Dieu a encore priorité le dimanche matin. Le dimanche matin. C'est tout. Après, c'est le monde qui reprend ses droits. Après, c'est la télévision, c'est le sport, c'est le travail, c'est le plaisir. Comme si la foi chrétienne pouvait légitimement être saucissonnée, là. Je suis vraiment un chrétien le dimanche matin, là. Quand est-ce que commence l'école du dimanche, 9h45, entre 9h45 et 8h45, alors là, je suis tout à Dieu, hein. Tout à Dieu. Il y a bien plus au christianisme, hein, que de faire des vocalises religieuses le dimanche à une divinité distante, éloignée, invisible. Il s'agit, quand on parle de christianisme, de suivre le Christ vivant dans son enseignement, dans son exemple. Et cette démarche ne se conçoit pas sans une altération profonde, inéluctable, radicale, de nos idées, de nos pensées, de nos échelles de valeur, de notre comportement. Si Dieu va avoir la place qu'il mérite dans votre vie, vous allez être une personne complètement différente. Complètement différente. Ce ne sont pas les petites réformettes. Il n'a jamais été question dans l'esprit de Dieu que les chrétiens n'apportent qu'un faible écho de la spiritualité, là, hein. Le compteur Gégère, c'était tout au début, là, Mais, ce que Dieu attendait de nous, c'est que nous introduisions partout et en tout temps la seule alternative radicalement différente au système du monde. La seule alternative. Le seul mode de vie qui plaise vraiment à Dieu. Le contraste doit être aussi marqué que celui des ténèbres et de la lumière. Notre ami Philippe Pluchon l'a mentionné ce matin, hein, beaucoup trop d'églises, beaucoup trop de chrétiens ressemblent au monde, ressemblent totalement au monde pour qu'une différence quelconque dans les domaines du juste et du vrai et du bien, hein, du pur, puisse être constatée. Alors, mes amis, il faut regarder, hein. Réveil. Mais on l'aspire, hein. Vous et moi, nous aspirons. Hein. Mais il y a des conditions, là. Deuxièmement, les préoccupations d'un réveil biblique. Si on pense réveil biblique, c'est pourquoi? C'est pour que l'Église se remplisse. Est-ce que c'est pour que des choses changent au niveau de la communauté? Est-ce que c'est, moi, j'entends parfois des gens, et ça me trouble, hein, j'avoue, franchement, ça me trouble. Ah, j'aimerais tellement que mon mari se convertisse parce qu'il est méchant et il me bat. On l'entend. Est-ce que c'est la raison pour laquelle quelqu'un doit se convertir? Absolument pas. Il est perdu, Dieu l'aime, Christ a donné sa vie sur la croix pour le salut de cet homme. Voilà la raison qui doit nous motiver. Alors, au cœur même de tout réveil spirituel, bat une préoccupation passionnée pour le nom de Dieu. Dieu commence et doit avoir la première place dans notre vie. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom? Notez que c'est pas le nom baptiste. Notez que c'est pas le nom du pasteur. C'est le nom de l'Éternel. Donc, loin des préoccupations terre à terre, hein, propres à la mondanité, loin de nos soucis locaux, là, sauver le pays, engraisser le patrimoine, ou je ne sais pas quoi, là, faire prospérer l'église, ou le ministère particulier, qui est le nôtre. Un réveil spirituel ne peut pas se dispenser d'une volonté doxologique. Je recherche la gloire de Dieu. Je veux que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie, dans ma famille, dans mon bureau, dans mon église, dans ma ville. Je veux que les gens puissent louer et célébrer le nom de l'Éternel. Qu'à Dieu seul revienne la gloire de tout ce que nous entreprenons et de tout ce qu'il entreprend à travers nous. La parole de Dieu nous rappelle sans cesse, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout. Non, hein. Faites le point vous-même, moi je l'ai fait, et puis je m'humilie devant le Seigneur. Est-ce que nous vivons ainsi ou nous faisons tout pour la gloire du Seigneur? Est-ce que nous vivons avec cette perspective doxologique? Est-ce que c'est le but de notre vie de glorifier Dieu? Combien de fois, hein, nous disons, oh, notre Dieu est un Dieu unique, hein, il y a un seul Dieu. Combien de fois nous trahissons le nom du Dieu unique, là, en ayant des idoles? Dès qu'il y a des idoles dans notre vie, hein, voiture, sport, n'importe quoi, dès qu'il y a des choses qui s'immiscent là entre Dieu et nous et qui nous empêchent de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, qui nous empêchent d'aller aux réunions, hein, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, là, c'est Philippe, enfin, quoi. C'est Philippe qui parlait de cette église où on changeait les heures de réunion pour pouvoir voir la finale de, je ne sais pas quoi, la baseball ou football. Qui est Dieu? Qui est Dieu dans cette église? Notre indifférence, notre apathie, là, ne trahissent-elles pas le Dieu d'amour? Notre hypocrisie, celle que nous tolérons chez nous et chez les autres, ne déshonore-t-elle pas le Dieu de vérité? Notre impureté dans les pensées, dans les attitudes, peut-être dans les actes, ne dénature-t-elle pas le Dieu dont le nom est saint? Et c'est pourquoi j'insiste, je persiste et je signe là, hein, notre souci majeur, notre fardeau principal, notre préoccupation passionnée devrait être de restaurer dans notre vie, dans notre vie et dans toutes les structures là, pour lesquelles nous exerçons quelque influence, hein, de restaurer le nom de Dieu à la position élevée et unique qui est la sienne. Il y a un réveil. Il n'y a pas de place, hein, pour d'autres motivations que celle-là, doxologique. Il n'y a pas de place, hein, pour les idées égocentriques, là. Je veux que mon ministère réussisse, hein. Je veux que notre église soit la plus grande de l'Essonne ou des Yvelines, là. Quel est le but, là? Honnêtement, moi j'aimerais bien, pour la gloire de Dieu, alors. J'aimerais bien que l'église de Mantes éteigne une personne. Mais pour la gloire de Dieu, pas pour le prestige de l'église de Nantes. Comprenez bien, il y a une différence. Pas pour le prestige du serviteur. Vous savez qu'on frise parfois l'idolâtrie dans certaines églises. C'est tout juste qu'on ne se baisse pas pour que ça se rentre, là. Hein. Bon, il s'agit d'avoir de la déférence, hein. Mais c'est quand même Dieu que l'on doit vénérer et adorer, c'est pas le pasteur. Il n'est que son humble instrument pour accomplir ce dessein ici-bas. Qui réveille, il n'y a pas de place, hein, pour des motivations autres que la motivation doxologique. Il faut que Dieu retrouve sa souveraineté dans notre vie. Il faut que Dieu retrouve sa majesté tout entière, hein, dans notre comportement là. Alors, voyons plus précisément les conditions d'un réveil spirituel. Il n'y aura pas de réveil. Le mot a été utilisé aujourd'hui, je l'ai entendu, au moins deux fois, dans une prière peut-être. Sans, j'appelle le brisement. Si mon peuple, notez, s'humilie. Alors, il est vain. Hein, il est vain d'attendre un réveil pour soi-même, dans son église, s'il n'y a pas cette humilité, ce brisement. Ici se trouve d'ailleurs la source de toutes les autres conditions. Hein. Le mot hébreu, là, traduisant humble, a pour racine l'expression plier le genou, c'est-à-dire le côté visible, le symbole visible d'une soumission du cœur, d'une soumission de l'esprit, d'une soumission de la volonté, les trois choses, hein. Il y a des gens qui sont, oui, j'aime le Seigneur, je voudrais qu'il ait la première place dans ma vie, c'est au niveau des intentions, hein, mais là, c'est une soumission du cœur, de l'esprit et de la volonté. Alors, brisement envers qui et envers quoi? Évidemment, envers Dieu. C'est devant lui que nous devons plier le genou. Devant Dieu lui-même et envers sa souveraine volonté. Honnêtement, s'il y a un grand de ce monde, alors je ne sais pas qui est grand aujourd'hui, ça peut choisir d'autres de ma vie, mais si un grand de ce monde devait entrer, monsieur Chirac, Tout le monde se lèverait. Et si Jésus entrait, comment tirait-il? Il nous faut plier le genou maintenant devant lui, comme s'il était toujours présent là, partout. C'est précisément que nous devrions être à tout moment, avec un cœur qui est plié devant Christ, montrant ainsi notre entière soumission, notre humble service. Qu'est-ce que cela signifie d'être brisé, hein? Faut faire attention maintenant à ce qu'on dit. Vous savez qu'il y a des sectes là qui paraît-il capillants, hein, psychologiquement, hein, en les faisant travailler 24 heures, pas à manger, dormir une heure, et puis on les réveille à la cloche, et puis, enseignement, etc. Non, que signifie d'être brisé? Être brisé. Que devons-nous remettre aussi totalement à Dieu? Eh bien, la première chose, c'est notre esprit d'indépendance et d'autonomie. Indépendant. Je ne suis pas indépendant. Mon corps a été racheté à un grand prix. Mon esprit, mon âme ont été rachetés à un grand prix. Ils appartiennent au Seigneur maintenant. Je dois glorifier dans mon corps et dans mon esprit le Seigneur. Il faut que les chrétiens se rendent compte de cela. Et cesse de jouer à la religion, cesse de jouer à l'église, là. Laminer, hein, notre quête d'exaltation personnelle. Ou nos inhibitions, là, par rapport au qu'en dira-t-on, notre entêtement à faire ce qui nous convient, notre indifférence à l'égard de la volonté de Dieu. Le brisement passe par un démantèlement en règle de notre volonté propre pour ne rechercher que le seul service de Dieu. Alors en route, il faut déjà abandonner l'idée de plaire aux hommes. Parce que si c'est ça qui nous préoccupe, plaire aux hommes, alors ça peut être plaire aux pasteurs, mais ça peut être aussi plaire aux membres d'église, plaire aux directeurs de l'école, ou plaire aux étudiants. Je vais être le professeur le plus populaire ici, là. Comme ça, la prochaine fois que je leur demande dans une église quel est le cours que vous préférez, ils vont tous dire « Théologie, monsieur Daubert, théologie !» Eh oui. Non, il s'agit d'abandonner cette prédisposition à plaire aux hommes. Et l'autre qui va avec, la crainte des hommes. La crainte des hommes. Pour abandonner à tout jamais cela, pour que nous puissions rechercher qu'une seule chose, c'est-à-dire plaire à notre Seigneur. Si souvent l'homme se comporte avec Dieu, je dirais d'une manière contractuelle, presque dans des rapports de force, là. Dieu, si tu fais ça, moi je te fais ceci. Si tu me cèdes ceci, moi je te donnerai cela. Hein. Il y a une espèce de contrat, là, qui... Est-ce que c'est ça la foi? Il y a des gens qui s'imaginent que c'est la foi, ça. Pratiquer le gédéonisme, là. Hein. Le brisement ne vient pas sans une humble admission, hein, humble admission que sans Dieu nous ne sommes rien, sans Dieu nous ne pouvons rien, sans une humble admission de notre, et rejet, évidemment, de notre orgueil racoleur, hein, qui si souvent nous entraîne à courir après le pouvoir, même petit, au lieu d'afficher ce qui devrait être notre attitude, celle d'un serviteur responsable. Vous avez vu, j'ai mis deux mots ensemble là. Serviteur responsable. Ce n'est pas l'humilité quand quelqu'un dit « Je suis un ver de terre, je ne vois rien, je ne peux rien faire, je suis un nul, ne me demandez pas de faire quoi que ce soit dans l'église, je ne vaux rien. » Ça, c'est pas l'humilité, c'est de l'avilissement. L'humilité, c'est de dire « Je ne peux rien sans l'aide de Dieu. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, comment pouvons-nous tarder sur ce point, hein, et ne pas être brisés, là, atteindre au tréfonds de notre personne? Comment est-ce que nous pouvons continuer d'afficher de manière presque nietzschienne, là, cette volonté de puissance? Nietzsche, hein, la puissance. Le surhomme. Alors que Dieu attend de nous la soumission, si mon peuple s'humilie. Et j'aimerais que vous notiez que c'est une démarche personnelle. Là. C'est à vous de vous humilier. Moi, je ne peux pas vous humilier. Je ne peux pas vous casser. En fait, je dirais que faites attention. Ça frise le gourou et ça frise la secte lorsque des gens disent « Je vais le briser ». Si quelqu'un doit vous briser, c'est le Seigneur, avec sa parole. Et vous, vous humiliez devant lui. Mais moi, je ne peux pas vous humilier. Et je ne veux pas le faire. Je disais tout à l'heure que le brisement est à la source de toutes les autres conditions propices au réveil spirituel du croyant. Voyons la seconde maintenant. Alors, si mon peuple s'humilie, notez, deuxièmement, et prie. Et honnêtement, si vous êtes brisé, si le Seigneur a la place là dans votre cœur, qu'il doit occuper, on va prier à tout bout de champ. On va plus s'arrêter. Hein? On reçoit une bonne nouvelle. Loué sois-tu, Seigneur. On reçoit une mauvaise nouvelle. Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire. Là, guide-moi. Aide ces personnes. Montre-moi ce que je peux faire moi pour les consoler, pour les réconforter, pour les exhorter. Hein? Si nous sommes brisés, nous prierons à tout bout de champ. Nous aurons cette attitude de prière dont parle la Bible lorsqu'elle dit prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est pas s'installer et pendant 48 heures prier sans arrêt. Mais c'est avoir cette disposition de cœur dans la prière. Et on va faire ça le plus naturellement du monde. Hein. Des hommes et des femmes humbles savent tout ce qu'ils doivent à Dieu dont ils prient. ils s'attendent à lui, ils se reposent sur lui. Et le vecteur principal sur lequel s'exprimera notre attitude d'humilité, c'est la prière. C'est la prière, parce que toutes nos ressources, toutes les ressources spirituelles et autres, ne se situent pas en nous-mêmes, se situent en Dieu. Dans les églises actuellement, qui sont sous ma supervision pastorale, nous examinons en profondeur le modèle de prière que le Seigneur nous a laissé dans Matthieu chapitre 6. Et ce que je souhaite atteindre à travers cette série de messages, c'est que nous puissions apporter à Dieu notre impotence et reconnaître sa toute-puissance. C'est que nous puissions admettre notre insuffisance et reconnaître que lui est omniscient, c'est tout. Il a toute sagesse. Que nous puissions reconnaître que seule la volonté de Dieu vaut la peine d'être connue, que seule sa puissance suffit, et beaucoup d'autres leçons qu'il nous faut apprendre ou réapprendre. Alors, parfois, on me dit très théologique dans mes messages, dans mon enseignement. J'ai toujours cru qu'une pratique ne reposant pas sur la révélation de Dieu, donc sur les doctrines, et une pratique qui ne reconnaissait pas l'inadéquation de l'homme, là, la capacité de l'homme, résultait inexorablement en routine, et qui plus est en routine légaliste et religieuse. Donc. Or, je renie tout ce qui ne vient pas d'une conviction scripturaire, tout ce qui ne vient pas du cœur. Et je vous prie de croire que pour Dieu, c'est exactement la même chose. Il en avait tellement marre avec... Venez avec un cœur brisé, venez avec un cœur contrit. C'est cela que j'attends de vous. Mais ce ne sont pas vos sacrifices. Et ensuite, votre vaine manière de vivre. L'une des séries de messages que Dieu a le plus béni dans mon ministère, c'était lors d'un, comment on appelle ça, d'un camp de famille. Et cette série de messages s'intéressait de près aux divers attributs de Dieu. Et quand j'ai proposé ça au pasteur, le pasteur m'a regardé de travers. J'ai dit, je vais prêcher une série sur les attributs de Dieu. Tu penses pas que c'est un petit peu trop poussiéreux? Tu penses pas que c'est pas? Je peux vous garantir que les gens ont finalement vu quelle était leur relation avec Dieu parce qu'ils avaient compris qui était Dieu. Qui était Dieu? C'est un, honnêtement, je crois que beaucoup de chrétiens sont dans un état spirituel lamentable parce qu'ils ne savent toujours pas à qui ils s'adressent. Ils ne savent toujours pas. Ils savent que c'est le Dieu du salut, mais ils ne connaissent ni son amour, ni sa bonté, ni son souci de nous voir marcher dans la vérité et dans la sainteté. Ils n'ont pas compris encore cela. C'est de notre faute. C'est de notre faute. On ne prêche pas assez sur cette âme. Quand on connaît Dieu, et surtout quand on se connaît à travers la parole de Dieu, alors le brisement se produit. La vie de prière prend une toute autre dimension, et c'est autre chose que du rabâchage pseudo-évangélique. Il n'y a pas de prière efficace sans un profond sens de l'infinitude de Dieu. Et encore une fois, je le répète jusqu'à que vous ayez peut-être la nausée, là. Mais il faut réaliser, il faut comprendre notre incapacité à faire ce qui est juste et bien de manière autonome. Sans la grâce de Dieu, on ne peut rien. Et si vous essayez par vos propres moyens de vivre la vie chrétienne et de triompher du péché, de repousser la tentation et de vivre dans la voie de la sanctification, vous connaîtrez l'échec. Vous connaîtrez l'échec. Alors dans beaucoup d'églises, on se contente de cosmétiques là. Venez avec des cheveux d'une telle longueur, une jupe d'une telle longueur. Et il y a sa place pour ces choses-là. Il y a sa place. Mais il y a beaucoup plus important. Beaucoup plus important. L'envie, la jalousie. Toutes ces choses sordides qui sont au cœur même de l'homme et qui sortent à tout bout de champ, là. Sortent à tout bout de champ. L'occasion ne fait que le larron, là. Alors, Josaphat, roi de Juda, illustre ce que je viens tout juste d'affirmer, sur la pleine dépendance que nous devons exhiber par rapport à Dieu. Dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 12, observez-le en train d'invoquer le nom. Regardez le texte, là, 2 Chroniques 20, 12, Observez-le en train d'invoquer le nom de Dieu. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est sous la menace imminente de l'attaque de trois des peuples les plus redoutables et les plus implacables qu'ait connu Israël, hein. Ammon, Moab et comment s'appelle l'autre? Ammon, Moab et Edom. Edom. Et dans sa prière, on ressent cette désespérance. Il reconnaît son incapacité, hein, à trouver une solution humaine. Et on entend évidemment son vibrant appel à l'intervention salutaire de Dieu. Alors notez, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Voilà donc un puissant de ce monde, hein, un roi, qui admet son impotence militaire. Ensuite, et nous ne savons que faire. Voilà un homme brillant, hein, intelligent, qui reconnaît son incompétence. Mais nos yeux sont sur toi. Un homme brisé, soumis, qui se repose sur l'omnipotent, l'omniscient de Dieu. Bon, je ne puis, dans le cadre de ce message, hein, m'étaler au-delà de ce que je viens de dire sur la condition intrinsèque à tout réveil spirituel. D'abord le brisement, ensuite la prière. Et cherche ma face. C'est une espèce de spontanéité là vers Dieu, hein. Cherche ma face. Qu'est-ce qui nous fait fuir devant Dieu? Dites-le-moi. Le péché. C'est le péché qui nous fait fuir devant Dieu. À la manière d'Adam et Ève qui, après avoir chuté, hein, se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Et ici, nous avons face. C'est littéralement le mot face qu'exprime l'hébreu. Et en fait, c'est très curieux. J'ai trouvé le mot face au pluriel. Donc, tu dis, oh, peut-être qu'il y a quelque chose là sur la pluralité de Dieu. Mais, après avoir péché, Adam et Ève ne pouvaient plus regarder Dieu en face. Tant était grande leur honte, leur crainte, leur culpabilité. Le péché avait terni, refroidi et complètement désamorcé, hein, cette relation parfaite qui les unissait auparavant, cette chaleur, cet amour qui les liait avec le Créateur. Et à travers toute l'histoire de l'humanité, le péché a empêché l'homme de se présenter devant Dieu. Le péché. Même à la fin des temps, hein, dans le fameux texte de l'Apocalypse, verset 16, en pleine période des tribulations, hein, les premiers jugements s'abattent, et les hommes disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de l'Éternel, devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Heureusement que Dieu nous cherche, hein. Heureusement que Dieu nous cherche. Dieu prend l'initiative. Et Dieu a pris l'initiative pour le premier couple. C'est lui qui est, Adam, hé, où est-ce que vous êtes là? Il a pris l'initiative, hein, pour les retrouver et pour leur offrir, hein, des solutions là. Et ça préfigure déjà toutes ces intentions par rapport à l'humanité. Mais le premier pas, c'est Dieu qui le fait. Et le premier pas fut suivi de beaucoup d'autres, hein, puisque le Fils éternel de Dieu a quitté sa demeure céleste, sa gloire, pour s'humilier, s'abaisser, prendre la forme humaine, vivre de manière obéissante et connaître la cruelle mort de la croix. Et ensuite, il y a eu la résurrection. Mais Christ ayant accompli cela, il a permis notre réconciliation avec Dieu, par la repentance et la foi, et maintenant nous pouvons chercher la face de Dieu, encore une fois. Chercher la face de Dieu, c'est avoir faim et soif de sa présence. Et de sa puissance en nous. Dans les pensées de Moïse, je pense au Deutéronome chapitre 4 verset 29, Dieu appelle le peuple à l'aimer et le servir, hein, de tout cœur et de toute son âme, de tout cœur et de toute son âme. Est-ce que ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous demande de le faire? De tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Est-ce que c'est une réalité? Chercher la face de Dieu, hein, n'est pas un homme qui est émacié, sur le point de dépérir, hein, de malnutrition, de soif, dont la langue est râpeuse et fendue par la déshydratation et qui va mourir, hein, à moins de trouver à se désaltérer. Alors, ma question c'est, jusqu'à quel point souhaitez-vous un réveil spirituel dans votre vie? Jusqu'à quel point souhaitez-vous un réveil spirituel dans votre Église? Recherchez-vous ce réveil comme le ferait un homme affamé ou assoiffé à la recherche de sa survie? Si le réveil ne sont que des idées qui nous traversent de temps en temps, le cœur, surtout quand quelqu'un parle d'évangélisation, on dit « Ah oui, il faut un réveil ». Avec quelle intensité aspirez-vous à voir Dieu agir en vous, à travers vous? Est-ce que nous recherchons réellement un réveil biblique? Je me suis interrogé, je me suis posé la question, et je dois dire que ça m'empêche de dormir un petit peu maintenant, hein, parce que j'ai affirmé des choses qui ne représentaient pas la réalité. Quand je disais, oui, il faut un réveil, je veux un réveil, je fais. Alors là, est-ce que tu es brisé? Est-ce que tu es soumis à Dieu? Est-ce que tu es entièrement entre tes mains? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce que tu vas parler pour lui? Est-ce qu'il a la première place dans ta vie? Ça prend tout ça, hein? Ça prend tout ça. Il y a des hommes et des femmes ici qui cherchent la force de Dieu et qui cherchent surtout la face de Dieu dans les Écritures, dans la prière, avec la même intensité, avec la même sincérité que si leur survie physique en dépendait. Qu'on cesse de jouer à la religion évangélique, là. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et spontané. Il y a quelque chose de spontané, hein, dans la recherche du réveil. Il y a une quatrième condition, sine qua non, il faut qu'elle soit là, pour qu'il y ait réveil. C'est la révolution pour le péché. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, hein, on peut pas implorer d'un côté la bénédiction de Dieu et le réveil, et puis continuer de vivre dans nos péchés, ce que nous cajolons, ce que nous cultivons, ce que nous maintenons dans notre vie. Et chacun connaît son jardin secret. Le brisement, la vie de prière totale, la spontanéité vers Dieu, ne saurait survivre que dis-je, commencer, au milieu du péché, c'est pas possible. Alors, j'ai vu cette fameuse cassette de Toronto, là. C'est pas. Honnêtement, quel pas. Alors on dit que les gens pleurent dans les véritables réveils des siècles précédents. Alors, je vais garantir que c'est pas ça. Dans les siècles précédents, les gens pleuraient, pas parce que quelqu'un leur avait mis une claque sur le front. Les gens pleuraient à cause du péché, à cause de la culpabilité. Hein, qui étaient sur leurs épaules et qu'ils commençaient à voir l'amour de Dieu. Mais c'était le péché qui les brisait, là. Hein, se détourner de nos mauvaises voies implique une répudiation de tout péché connu et une soumission complète à la volonté de Dieu. Et on ne fait plus qu'à sa vie, là. On ne développe plus sa prophétique. On ne couvre plus le péché. On n'excuse plus le péché. On ne blâme plus le péché sur les autres. Ah, c'est de sa faute qu'il m'a provoqué, alors je me suis mis en colère. Non, tu t'es mis en colère parce que tu es charnel, parce que le péché est encore en toi. Ne blâme pas les autres pour cela. Alors il convient de se plonger là dans l'objectivité, l'intégrité, la parfaite transparence pour examiner ce qui en nous pourrait encore ressembler à le péché sous toutes ses formes. Vous savez que l'un des péchés chroniques, un des péchés chroniques chez les chrétiens, c'est l'indifférence, c'est la superficialité. Ce sont deux des péchés les plus... L'indifférence et la superficialité. Il nous faut une honnêteté totale qui expose, qui met tout à nu, là, qui nous concerne. Et alors qu'il ne légitimise plus nos fautes, qu'il n'attribue plus nos fautes aux autres, et qu'il terrasse les dragons de l'orgueil là, et la suffisance. Et tout ce passage, dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous enseigne clairement que la revitalisation spirituelle dont vous et moi avons besoin, mes amis, ne constitue pas une espèce de doux sentiment de chaleur, là, hein, tel qu'ils sont produits souvent autour des feux de camp. Hein, autour des feux de camp, moi j'ai fait 36 000 réunions de jeunes, autour des feux de camp, alors on bascule dans l'émotionnalisme total, et on voit tout le monde pleurer, et puis vous les voyez 3 jours plus tard, revenus dans leurs églises, Rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est pas ça le réveil. Hein? Une douce sensation au niveau du cœur où on pleure et puis on se sent bien et puis on pleure encore une fois, puis on se sent bien, puis on rit et on pleure. Vous savez ce dont je parle, n'est-ce pas? C'est pas ça. C'est pas ça. Un réveil, ça passe aussi par notre volonté. L'intelligence de la volonté de Dieu et notre volonté. Maintenant, je veux vivre différemment pour Dieu. Ah oui, je veux vivre différemment pour Dieu. Je ne veux plus continuer de vivre comme je le fais. Terminer la superficialité. Terminer hein, la façade, là. Terminer le théâtre. Je vais me reposer entièrement sur la parole de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la direction des Saintes Écritures. Je vais me reposer sur cela maintenant. Alors nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, justifiés par le sacrifice du Christ, et le réveil spirituel va au-delà de cette chose extatique là, vers une volonté. Je veux vivre totalement pour Dieu par sa grâce. Seigneur, aide-moi. Encore une fois, hein, je veux dire ça, je n'oublierai jamais ces scènes que j'appelle grand guignolesque, moi, de cette fameuse bénédiction de Toronto, et que certains évangéliques français, mal renseignés, ou alors en mal de publicité, je sais pas, ont élevé au rang de réveil, mais ils ne savent pas ce qu'est un réveil. C'est pas possible. Tout, dans ce que j'ai vu, sonnait faux. Tout. Le caractère théâtral, artificiel du messager et du message, Et puis la manière dont le Saint-Esprit était donné, là, avec la veste, tout sonnait faux. Tout sonnait faux. C'est pas possible. Mes amis, un réveil ne se focalise jamais sur le bonheur de l'âme. Un réveil se focalise sur la gloire de Dieu. Gloire de Dieu. La sainteté de Dieu. Il n'y a rien de superficiel. Il n'y a rien d'artificiel. Il se produit quand nous sommes prêts dans notre cœur à vraiment nous détourner de nos mauvaises voies et nous disons maintenant ça suffit. Dieu, mon Seigneur, mon Dieu, c'est moi, je veux vivre différent. Ça suffit. Dans le panier, hein, des offrandes spirituelles, il faudra déposer nos péchés cajolés, il faudra se déposer soi-même, et il faudra déposer ces deux tyrans puissants qui ne se séparent pas facilement de leurs victimes. Hein, l'égocentrisme, là. Et puis l'hédonisme. Alors ma question, c'est est-ce que vous êtes en ce jour disposé à payer le prix qu'il faut pour qu'il y ait un véritable réveil dans votre cœur, dans votre vie et dans votre ministère? Ouf. Trois lignes seulement. Hein, les conséquences du réveil. Ils nous sont donnés dans ce chapitre aussi. Regardez. 2 Chroniques 7, 14. Hein. Laissez-moi vous les résumer, hein, faute de temps. Qu'est-ce que nous allons avoir? Qu'est-ce qui va se passer lorsque le réveil va se produire? Eh bien, la première chose, elle n'est pas mince, celle-là. Nous allons avoir l'oreille attentive de l'Éternel. Il va exaucer les cieux. Il va exaucer nos prières. Bon, il est vrai qu'on ne va pas prier les prières par elle. Il est vrai qu'on ne va pas prier les prières par elle. Et je veux, en souffrant, pour que la croix de il n'y aura plus de prière. Non, on va prier les prières qui rejoignent complètement la pensée de Dieu, le dessein de Dieu, les objectifs de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, les conséquences du réveil spirituel, nos prières vont être exaucées. On va voir la puissance de Dieu. Comment est-ce que nous savons que Dieu est vivant? Il tient ses promesses dans ma vie. Je me bats sur les promesses bibliques et il l'accomplit. Je prie et il répond. Il y a la parole de Dieu qui me parle de lui, mais je vois qu'il est vivant. Ensuite, un cœur divin qui pardonne. Ça, c'est une autre conséquence du réveil spirituel. Je lui pardonnerai son péché. J'aimerais bien que vous compreniez une chose là. C'est que Dieu ne juge pas une culture. Parlons de la culture française, à la civilisation française. Nous sommes en train de dire, c'est le désastre. C'est le désastre. Les gens ne veulent plus travailler, ou d'autres sont en train de les exploiter, ou il y a des bandes, il y a la drogue, il y a la pornographie, il y a l'avortement, il y a le divorce, on veut tuer, on veut loin, voilà. C'est le chaos. C'est le chaos spirituel. Mais sachez que Dieu ne juge pas une culture comme la nôtre à cause de l'immoralité des non-croyants, mais à cause de l'apathie et de l'indifférence des chrétiens. Des chrétiens qui ne bougent plus, des chrétiens qui ne pleurent plus, des chrétiens qui ne réagissent plus. Avant de dénoncer la société, portons un regard honnête sur nous-mêmes, sur nos églises, sur l'image du christianisme que nous réverbérons au monde. Qu'est-ce qu'ils voient en nous? Qu'est-ce qu'ils voient en nous? Sodome et Gomorre ont été jugés, non pas pour les, je sais pas combien d'habitants il y avait à Sodome et Gomorre, hein, mais Sodome et Gomorre n'a pas été jugé pour les 48 922, voilà, qui étaient injustes, non? Sodome et Gomorre ont été jugés parce qu'il n'y avait pas même 10 justes en elles. 10 justes. Notez les conséquences du réveil spirituel, c'est aussi une main réparatrice. Alors là, évidemment, il faut tenir compte du fait que nous sommes dans l'Ancien Testament, hein, la dispensation hétérotestamentaire. Donc, il parle de « je guérirai le pays ». Et dans la dispensation de l'Ancien Testament, la théocratie d'Israël pouvait, avec cette promesse, se prévaloir d'une prospérité, d'une hégémonie par rapport à ses voisins. En tous les cas, ses voisins n'étaient plus là à la troubler. D'une prospérité, je l'ai déjà dit. Mais nous ne vivons plus dans l'économie de l'Ancien Testament. Là. Alors nous qui vivons dans l'économie néo-testamentaire, dans la dispensation de la grâce et de l'Église, l'Église du Christ peut, elle, s'attendre à un regain de vitalité morale, à un regain de puissance comme jamais elle n'en a connu. Et nous serons guéris. Là. Il y aura des guérisons au sein de nos Églises là, sur le plan spirituel. Il n'y a guère qu'une église pleinement retrouvée en Dieu qui puisse guérir les blessures profondes infligées par l'immoralité, l'indifférence. Donnez-moi une église revitalisée et il n'y aura aucune épreuve externe que je ne craigne. Aucun ennemi qui ne puisse m'effrayer. Aucune tâche qui ne puisse m'écraser. Alors sortant de la spirale matérielle auquel nous sommes si attachés, identifions nos vrais besoins, et je prie de croire que ces vrais besoins sont d'ordre spirituel. Souvent ce que nous voulons est matériel, or ce dont nous avons le plus besoin est spirituel. Regardez les prières de Paul pour les Colossiens, pour les Éphésiens, et vous apercevrez que ce sont toujours des prières pour qu'ils puissent mieux comprendre Dieu, mieux comprendre la volonté de Dieu, mieux voir leur place les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas un verset concernant les besoins d'ordre matériel. Alors, amis, vous qui êtes chrétiens, évangéliques, bibliques, fondamentalistes, et qui aspirez à voir un véritable réveil s'opérer dans votre église, s'opérer en France, posez-vous les questions suivantes. Suis-je préoccupé par la réputation du nom de Dieu? Est-ce que je recherche la gloire de Dieu? Ou est-ce que la manière de vivre, et tout ce que je fais, tente à me faire du bien à moi, à défendre mes intérêts? Suis-je brisé devant Dieu? Est-ce que je suis entièrement soumis à sa volonté? Est-ce que je me suis offert en sacrifice vivant là, au Seigneur? Ou est-ce que je subis encore les dictats de la chair? Est-ce que j'en suis encore à vivre avec les anciennes passions, là, les anciennes convoitises? Posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai comme vie de prière? Et à quoi rime ma vie de prière? Qu'est-ce que j'ai comme vie de prière? Est-ce que j'ai une relation personnelle, intime, constante avec le Seigneur? Est-ce que c'est une réalité? Suis-je vraiment à la recherche de la face de Dieu? Est-ce que je veux le voir et le connaître dans toutes choses? Et en répondant à toutes ces questions, plus les autres que j'ai suscitées dans ce message, vous allez pouvoir vous rendre compte si vous êtes un fondamentaliste authentique. Parce que c'est ça, un fondamentaliste authentique. C'est ça, un fondamentaliste authentique, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui vit cette intimité avec Dieu. C'est ça. C'est pas simplement quelqu'un qui a toutes les doctrines, là. Une confession de foi impeccable, c'est qui dit « je suis fondamentaliste ». Vous allez pouvoir mesurer si vous êtes un fondamentaliste authentique. Ceux dont nos églises ont besoin, ceux dont la société a tant besoin, ou si vous n'êtes qu'une apparence de chrétien, de chrétien, un ersatz de chrétien, dont l'impact demeurera pratiquement insignifiant. Posez-vous la question, moi je la pose à moi-même. Et c'est ça la vérité dans l'amour aussi. C'est-à-dire que on a besoin d'être posé, on a besoin de s'humilier. On a besoin de voir Dieu. J'aimerais laisser ce mouvement comme une prière ouverte. Je vais commencer, mais j'aimerais que vous puissiez prier à ma suite. Seigneur notre Dieu, bon Père Céleste, je viens devant toi avec humilité. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes manquements, je reconnais mes carences. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas su m'enflammer pour toi. M'engager pour toi, je n'ai pas cherché ta face comme j'aurais dû. Je me suis laissé piéger, pris par le monde. Je me suis laissé attirer par les choses de ce siècle. Je ne vois pas, je n'ai pas vu ce que tu attendais de moi. Alors que ta parole était si limpide, si claire. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je me prosterne. Je reconnais que tu as le droit de mener ma vie. De faire avec moi ce que tu veux, de me maintenir dans la pauvreté, de me maintenir dans la maladie, de me transporter, de m'emmener là où tu veux, tu as ce droit, Seigneur, tu es le Créateur. Et je suis conscient parce que je sais que tu es un Dieu de bonté, de sollicitude. Si tu étais arbitraire, j'aurais tout à craindre. Mais tu es un Dieu d'amour. Tu n'as pas besoin de prouver ton amour. Ton amour est partout. Partout! Dans cet univers, partout dans la parole de Dieu. C'est moi qui ai tout à prouver. C'est moi qui ai tout à démontrer. Parce que je t'aime de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toutes mes forces. Parce que je t'aime de toute mon âme. Seigneur, aide-moi. Produire en moi le changement qui constituera un véritable politiquement, un véritable réveil. Pour que ton nom soit glorifié. Et pour que la face de Christ soit réverbérée par tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus.